إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc aujourd'hui on commence le cours 66 dans l'explication du livre اقتضاء صراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. C'est un livre, comme on le sait, c'est le livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Et on lit le livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah avec les commentaires du grand alim, le grand savant de notre époque, hein, Cheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan hafizahullah. Et donc, comme je disais, on est arrivé donc au volume 2, à la page 499, et c'est le cours 66 aujourd'hui. Et le passage du volume 2 qu'on va commencer à expliquer maintenant, c'est le passage numéro 6, le point numéro 6. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit, parce qu'au cours dernier, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a expliqué qu'est-ce qu'il y avait, toujours la suite de l'explication au sujet de l'interdiction d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les musulmans de ressembler aux kuffars des gens du livre, entre autres les juifs et les chrétiens, et dans un point bien spécifique et particulier, c'est-à-dire dans la dureté du cœur. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne spécifiquement dans des versets dans le Coran, et il y a également la mention de ça dans certains hadiths, l'interdiction d'être dur ou d'avoir la dureté du cœur. Et les versets qui parlent de ça mentionnent les causes, hein, les causes qui font que le cœur devient dur, et les versets nous mettent en garde contre ces causes-là, contre ces choses qui peuvent faire en sorte que notre cœur devienne dur, d'accord, parce que c'est pas suffisant de nous interdire d'avoir le cœur dur si on nous explique pas quelles sont les causes, hein. Et donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde au sujet des gens du livre et nous mentionne qu'ils avaient le cœur dur, eh bien, il nous mentionne aussi également qu'est-ce qui ont été les causes pour que les gens du livre aient justement le cœur dur. Et ça, c'est en même temps une exhortation pour nous, la Ummah de l'Islam, pour que justement on évite ces causes et pour qu'on évite de les imiter et d'avoir le cœur dur aussi. On a parlé des exemples de ça au dernier cours. On continue dans cette voie. Le cheikh, il dit, Cheikh al-Islam, il dit لَمَّا نَهَى اللَّهُ عَنِ التَّشَبُّهِ بِهَؤُلَاءِ الَّذِينَ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ ذَكَرَ أَيْضًا فِي آخِرِ السُّورَةِ حَالَ الَّذِينَ ابْتَدَعُوا الرَّهْبَانِيَّةِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَعَقَّبَهَا بِقَوْلِهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم فإن الإيمان بالرسول هو تصديقه وطاعته واتباع شريعته وفي ذلك مخالفة للرهبانية لأنه لم يبعث بها بل نهى عنها وأخبر أن من اتبعه من أهل الكتاب كان له أجران وبذلك جاءت الأحاديث الصحيحة من طريق ابن عمر وغيره في مثلنا ومثل أهل الكتاب. Donc Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il dit lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de ressembler à ceux-là à ceux qui ont eu le cœur dur, il nous a également mentionné dans la fin de la sourate Surat al-Hadid, c'est le chapitre 57, c'est-à-dire Surat al-Hadid, c'est le fer. Il dit dans cette surah وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ. Donc ils ne soient pas comme ceux qui ont reçu le livre avant eux, qui ont trouvé le temps long et dont les cœurs sont devenus durs. Et à la fin de cette surah, après avoir mentionné l'état de ceux qui ont inventé le monachisme, c'est-à-dire les monastères, puis le fait de devenir moine ou de devenir comme les religieuses qui s'enferment dans des cloîtres ou dans des monastères, juste pour adorer Dieu seulement. Et ils disent, nous on va rien faire d'autre que adorer Allah. Donc ils se marient pas et ils ont pas de contact avec le reste du monde, ils s'isolent et ils ne font que prier et jeûner et faire des actes d'adoration tout le temps. Et ils pensent que c'est quelque chose qui est bon et que Allah est satisfait de ça. Alors que en réalité, c'est pas les messagers d'Allah qui leur ont légiféré de faire ça et qui leur ont enseigné de faire ça, mais c'est quelque chose qu'ils ont innové d'eux-mêmes. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans la sourate وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا. ابْتَدَع, ça vient de l'ibtida, al-bid'a. Donc c'est une innovation, c'est quelque chose qui est innové, ça ne fait pas partie de la religion d'Allah, ça ne fait pas partie de l'enseignement des messagers d'Allah. Et c'est pour ça qu'il dit وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا. Donc c'est ce monachisme qu'ils ont inventé, nous ne leur avons pas prescrit. Ils devaient seulement chercher l'agrément d'Allah, mais ils ne l'observèrent pas comme il se devait. Et donc, après avoir mentionné ça, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans les versets suivants, parce que ça c'est le verset 27, et dans le verset 28 et 29, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « Ô vous qui avez cru, craignez Allah et croyez en son messager pour qu'il vous accorde deux parts de sa miséricorde. » Pour qu'il vous accorde deux parts. En arabe, Allah subhanahu wa ta'ala dit en arabe « Yu'tikum kiflaini » pour qu'il vous accorde kiflaini min rahmatihi, deux parts de sa miséricorde, et qu'il vous assigne une lumière à l'aide de laquelle vous marcherez, et qu'il vous pardonne, car Allah est pardonneur et très miséricordieux. Et dans le verset 29, il dit ce qui signifie cela afin que les gens du livre sachent qu'ils ne peuvent en rien disposer de la grâce d'Allah, et que la grâce est dans les mains d'Allah, il la donne à qui il veut. Et Allah est le détenteur de la grâce immense. Donc le cheikh il dit, yani, que la foi en le messager, ça signifie de croire en lui, de lui obéir et de suivre sa loi et sa législation. C'est ça que ça signifie, croire au messager. Donc c'est pas juste tu dis je crois en lui. Non, tu dois le dire que tu crois en lui, tu dois lui obéir et tu dois suivre ce qu'il a légiféré et ce qu'il a ramené comme règle, comme législation et comme loi. Et si tu suis ça, eh bien, dans ce cas-là, tu viens en contradiction avec qu'est-ce qu'ils ont inventé comme monachisme, comme on a dit tout à l'heure. Parce que le messager n'a pas été envoyé avec le monachisme. Même que, au contraire, il a interdit. C'est-à-dire que le messager, il a interdit de dire, il a interdit que les hommes s'isolent de la société et qu'ils se vouent ou qu'ils s'adonnent que à prier, jeûner et rester en adoration seulement et rien faire d'autre, pas se marier, pas de fonder de famille, pas travailler, pas faire d'autres choses. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit ça. Hein? Et tous les messagers ont interdit ce genre de pratique et ils ont vécu avec des femmes, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants et ils ont fondé des familles. Hein? Donc comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّةِ فَلَيْسَ مِنِّي. Donc celui qui préfère autre que ma sunna, il n'est pas de moi. Celui qui laisse ma sunna pour quelque chose d'autre, il n'est pas de moi. Et donc et ce sont nos exemples et nos modèles à suivre. Et donc le cheikh il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a informé, et puis même Allah subhanahu wa ta'ala, il le mentionne dans ce verset là, que celui qui a suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parmi les gens du livre, c'est-à-dire s'il était juif ou il était chrétien, puis qu'ensuite il a cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il aura deux récompenses. Il aura deux récompenses. Comme ça a été mentionné dans les hadiths authentiques par la voix de Ibn Omar et d'autres également. Et il dit, ça c'est dans notre exemple, l'exemple des gens du livre. C'est-à-dire ceux qui ont cru en l'islam et qui ont cru en les prophètes, un prophète précédent et l'islam ensemble. Donc quand il a été au début chrétien ou juif, puis qu'après il s'est converti à l'islam, eh bien il a le double de la récompense pour avoir cru en deux prophètes. On va expliquer ça dans les paroles maintenant de Cheikh Al-Fawzan. Il dit, حفظه الله قوله ولما نهى الله عن التشبه بهؤلاء الذين قست قلوبهم وذلك في الآيات التي سبق ذكرها من سورة الحديد حيث قال سبحانه ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها تأمل قوله رأفة ورحمة حيث لم يعقب بشيء لأن الرأفة والرحمة مطلوبتان ثم قال ورهبانية ابتدعوها وصف الرهبانية بأنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله هذا قصدهم والرهبانية هي التشدد في العبادة أكثر من المطلوب من اعتزال الدنيا ولزوم الصوامع وهم ما فعلوها قصدا للمخالفة بل فعلوها قصدا لابتغاء رضوان الله ولكن الفعل إذا كان يخالف الكتاب والسنة فإن الفعل لا يقبل. وانظر إلى قومه ابتدعوها، وهذا اللفظ كاف في ذم الفعل. ولو صلحت نية صاحب البدعة، قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم إنهم مع أنهم ابتدعوها لهذا القصد ما رعوها حق رعايتها، لأنهم عجزوا عنها، لأن المتشدد ينقطع، أما المعتدل فإنه يستمر. وقد جاء في الحديث أن المنبت نعم المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، أما المعتدل فإنه يثبت ويسير براحة وطمأنينة. Qu'est-ce que ça signifie ces paroles de Cheikh Al-Fawzan? C'est en fait une explication du verset qu'on a lu dans Surat Al-Hadid. Et c'est très très intéressant et très bénéfique. Cheikh Al-Fawzan, il mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit donc de ressembler aux gens du livre dans la dureté du cœur. Et ça c'est ensuite, par la suite, il nous mentionne dans les versets qui viennent après l'exemple des messagers que Allah a envoyés. Et il cite par exemple le verset 26. Il dit: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم. Nous avons effectivement envoyé Noé et Abraham et accordé à leur descendance la prophétie et le livre. Certains d'entre eux furent bien guidés, tandis que beaucoup d'autres d'entre eux furent pervers. Donc ça c'est le verset 26. Le verset 27, il dit: puis sur leurs traces nous avons fait suivre nos autres messagers, et nous les avons fait suivre de Jésus, fils de Marie, et lui avons apporté l'évangile. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, il a fait suivre par la suite les messagers, d'autres messagers, puis parmi ceux-là Isa ibn Maryam, c'est-à-dire Jésus, fils de Marie. Nous les avons fait suivre de Jésus, fils de Marie, et lui avons apporté l'évangile. D'accord? Il lui a donné l'Injil. Et il dit, regardez qu'est-ce qu'il dit ensuite: et on a mis dans les cœurs de ceux qui le suivent douceur et mansuétude. Douceur et mansuétude. يعني رأفةً ورحمةً. On peut dire douceur et miséricorde. Mansuétude, miséricorde, c'est des synonymes. Donc il a mis رأفةً ورحمةً. Donc Cheikh Al-Fawzan, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, donc avant de lire la parole de Cheikh Al-Fawzan qui explique le verset, on va continuer le verset. Donc et nous avons mis dans le cœur de ceux qui suivent Jésus, fils de Marie, la douceur et la miséricorde. Et le monachisme qu'ils inventèrent, le monachisme qu'ils ont inventé, c'est-à-dire qu'ils ont innové. Et le cheikh, il dit, regardez la formule, comment le verset est mentionné. Parce qu'en français, des fois, on n'arrive pas vraiment à comprendre ou à comprendre les choses clairement de la façon dont les choses sont traduites. Parfois ça change un peu la compréhension du verset, mais quand on le lit en arabe c'est très clair. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala: وَقَفَّيْنَا بِعِيسَ بْنَ مَرْيَمْ وَأَتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلِ وَقَفَّيْنَا بِعِيسَ بْنِ مَرْيَمْ وَأَتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلِ. Donc on a fait suivre de Isa ibn Maryam, et on lui a donné l'Injil. Après, il dit, وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ, c'est-à-dire, on a mis dans le cœur de ceux qui l'ont suivi, رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً. Donc, il mentionne trois choses. رَأْفَة, c'est la douceur, وَرَحْمَة, yani la miséricorde, وَرَهْبَانِيَّةً. Mais, رَهْبَانِيَة, après رَهْبَانِيَة, il dit, ابْتَدَعُوهَا. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا. Donc, le cheikh, il dit, regardez, le terme رَأْفَة et رَحْمَة, qui est la douceur et la miséricorde, ou la mansuétude, Allah n'a rien dit par la suite pour blâmer ces choses-là. Pourquoi? Parce que la douceur et la miséricorde sont des choses qui sont exigées dans l'islam et par la foi. Mais après le mot rahbaniya, c'est-à-dire le monachisme et le fait de devenir moine ou rester dans des monastères ou devenir religieuse, une sœur comme ils les appellent, et de se cloîtrer ou de rester enfermé dans des monastères, même si c'est moins à la mode aujourd'hui que c'était dans le passé, ça a beaucoup changé. Avant, elles portaient les sœurs religieuses portaient des costumes, des vêtements, des longues robes, des tuniques, des longues robes avec des voiles sur leurs cheveux, blancs ou noirs, selon le... Comme des djilbabs, exactement. Mais avec la modernisation, ils ont aussi modernisé le costume. Parce que ça les dérangeait un peu ce look. Donc ils ont un petit peu transformé ça maintenant. Donc le cheikh, il dit, la douceur et la miséricorde, ça c'est deux choses qui sont voulues, qui sont exigées dans l'islam. Mais ar-rahbaniya, Allah... Après avoir mentionné ça, il dit « ibtada'uha ». C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié le monachisme d'innovation. Et il dit « ibtada'uha ». Yani, « ibtada'uha », »,« ibtada'uha », ça veut dire « ils l'ont innové ». وَرَحْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ. Donc, nous ne leur avons pas prescrit de faire ça, c'est-à-dire on leur a nullement prescrit de faire le monachisme, et ils l'ont fait uniquement dans le but de rechercher l'agrément d'Allah. Donc, le cheikh explique que la raison pour laquelle ils ont fait le monachisme, leur intention derrière ça, c'était yani, de chercher l'agrément d'Allah. Les moines, les sœurs qui s'isolent, qui font juste adorer Allah, le but c'était de chercher l'agrément d'Allah, de plaire à Allah. Et qu'est-ce que ça a amené comme résultat? Ça a amené de l'extrémisme et de l'exagération. Parce que le cheikh, il explique que le monachisme, en réalité, c'est ça. C'est de l'extrémisme. Et c'est de l'exagération dans l'adoration et dans la religion. Et c'est pour ça que j'ai expliqué ça dans plusieurs cours, que le christianisme, à la base, et même le judaïsme, c'est des religions extrémistes. Même si, aujourd'hui, les chrétiens, ils accusent les musulmans d'être extrémistes. Mais... la réalité, c'est que la religion musulmane est la religion la plus équilibrée et la plus modérée. Il n'y a pas de religion plus modérée que l'islam, que ce soit dans l'adoration, dans les croyances, dans les pratiques. L'extrémisme, il ne vient pas de l'islam, il vient du christianisme et du judaïsme. Et des exemples de ça, il y en a plein. Regardez, en Europe par exemple, les monastères, les moines, les prêtres, les sœurs, l'église, les papes, toutes ces choses-là, c'était des choses acceptées. Jusqu'à récemment, et encore aujourd'hui, ils trouvent rien de mal là-dedans. Pourtant, c'est quelque chose, comme on a dit, c'est en contradiction avec l'exemple de tous les messagers. De dire, moi je me marie pas, je reste dans une maison ou dans un monastère, je ne veux pas parler avec personne, je ne veux pas me mélanger avec le reste des êtres humains. J'ai peur de faire des péchés, donc je vais m'isoler juste pour prier et adorer Dieu et rien faire d'autre. Ça, c'est extrémiste, hein? Et c'est ça, en fait, qui a amené qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui la laïcité. Parce que, déjà, moi, c'est pour ça que j'expliquais souvent à des musulmans, même à des non-musulmans, j'ai dit, en Europe, il y a toujours eu la laïcité en réalité. La séparation du religieux et du politique, elle a toujours existé. Parce que de séparer la vie religieuse et la vie mondaine, la vie ordinaire, ça a toujours existé. Puisqu'il y a toujours eu des moines, des prêtres, des religieuses, eux, ils vivent que pour la religion, et le reste, des hommes, qui vivent pour la vie. Hein, et qui sont pas religieux, soi-disant. Donc, cette séparation entre la vie et la religion, elle a toujours existé en Europe. Elle a toujours existé dans le christianisme, en tout cas, depuis que ces gens-là ont inventé cette religion. C'est pas Isa ibn Maryam qui a enseigné ça. C'est pas Jésus qui a prêché ça et qui a enseigné ça aux hommes. Ce sont les chrétiens qui l'ont inventé et qui ont déformé le message d'Isa, le message de Jésus, et qui ont créé cette religion qu'on appelle aujourd'hui christianisme, qui n'a rien à voir avec les enseignements de Jésus à la base. D'accord? Mais pour dire que la raison pourquoi ils ont dû séparer la politique ou la vie sociale et politique et économique de la religion, c'est parce que la religion et la politique ont toujours été séparées. Déjà, bon, même par exemple, à l'époque, il y avait le pape et il y avait les rois. Et le pape était une autorité religieuse et politique en même temps. Et il opposait le pouvoir politique des rois. Donc il y avait toujours un conflit entre l'Église et la politique dans les différents pays chrétiens. Et le pape avait des armées même. Il contrôlait, il élevait des rois, il rabaissait d'autres, il combattait certains, il rapprochait d'autres. Donc, non seulement il séparait la vie et la religion, mais il séparait aussi le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Alors que dans l'islam, il n'y a jamais eu cette séparation-là. Il n'y a pas des hommes religieux et non religieux. Tout le monde doit prier, tout le monde doit jeûner, tout le monde doit appliquer la religion et de façon égale. Que tu sois un savant, que tu sois un boulanger, que tu sois un policier, que tu sois, peu importe qu'est-ce que tu sois, un docteur ou autre, tu dois adorer Allah de façon constante, comme tous les êtres humains. Il n'y a pas de différence entre quelqu'un ou l'autre. C'est sûr qu'il y a des niveaux de foi, des niveaux de piété entre les gens, mais tout le monde doit adorer Allah. Hein? Le prophète, les sahaba, les messagers à l'époque, tout le monde adorait Allah. Hein? Et après, c'était toujours la même chose. Le khalifa, les dirigeants, les ulama, la population, tout le monde doit adorer Allah. C'est ça dans l'islam. Il n'y a pas une classe à part qui, eux qui sont religieux, puis les autres, non, ne sont pas religieux. Il n'y a pas une classe à part qui dit, nous, on ne se marie pas, on ne va pas vivre avec le reste des hommes, on va juste prier et adorer Allah. Les seuls qui ont ramené ces idées-là, c'est les soufis. Et ces soufis-là, ils ont pris ça du christianisme. Ils ont voulu imiter, justement, les moines et les prêtres chrétiens, puis ramener ça dans l'islam. Ça n'a rien à voir avec l'islam. D'accord? Donc, dans l'islam, il n'y a pas eu cette séparation entre la religion et la vie, et il n'y a pas eu cette séparation non plus entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux, parce que il n'y a toujours eu qu'un pouvoir, et le pouvoir exécutif, c'est les dirigeants, le pouvoir juridique, c'est les ulama de l'islam. Hein? Et c'est eux qui connaissent la loi et la législation, et c'est les dirigeants qui l'exécutent. D'accord? Donc il n'y a pas ce problème comme qu'est-ce qui existait par exemple en Europe. Et c'est pour ça que la laïcité, ça ne marche pas dans l'islam. Et que si un musulman se dit qu'il est laïque, ou un musulman prétend être musulman et laïque en même temps, ben, en réalité, c'est la preuve que c'est soit qu'il est ignorant, ou soit qu'il ne croit pas réellement à l'islam. Soit qu'il est ignorant, donc il dit deux choses contradictoires et il ne réalise pas. Soit il ignore qu'est-ce que c'est l'islam, ou soit il ignore qu'est-ce que c'est la laïcité, ou soit il ignore qu'est-ce que c'est les deux. Hein? Donc il se contredit à cause de son ignorance. Ou c'est une personne qui ne croit pas réellement à l'islam, et donc il rejette les lois qui sont mentionnées dans le Coran et dans les hadiths et dans la charia, et puis il met des lois inventées ou fabriquées par l'homme au-dessus de la loi d'Allah ou à égalité avec la loi d'Allah, ou il pense que c'est permis de juger par autre que ce que Allah a révélé. Dans ce cas-là, c'est kufr. Hein? Donc la laïcité, c'est pas possible pour un musulman d'être laïque et d'être musulman en même temps. C'est pas possible. Sauf s'il est un ignorant. Mais donc c'est pour ça que quand tu entends par exemple qu'au Québec il y a une association qui s'appelle l'association des musulmans et arabes laïcs. Arabes laïcs, ça marche, ça se peut. Pourquoi? Parce que tu peux être arabe et laïque. Tu peux être italien et laïque, québécois et laïque, chinois et laïque, haïtien et laïque. Mais musulman et laïque, non. Hein? C'est comme si tu me dis musulman athée. Bon, il y en a. Ça, c'est. Tu dis que tu es musulman puis tu ne crois pas en Dieu. Ça ne se peut pas. Hein? Exactement. Donc, c'est la preuve de l'ignorance de ces gens-là. Et ceux qui disent, par exemple aussi, nous on n'a pas de problème avec les musulmans, mais le seul problème qu'on a c'est avec l'islam politique. Ça on entend ça souvent aussi. L'islam politique c'est quoi? Est-ce que dans le Coran il n'y a pas des règles politiques? Et dans la Sunna il n'y a pas des règles politiques? Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il a juste enseigné des règles religieuses? Et dans qu'est-ce qu'il a enseigné, il n'a pas appliqué des règles sur le plan politique, économique et social? Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans l'islam qu'il nous a enseigné et dans l'islam qu'il a pratiqué, que Allah lui a révélé, il y avait des règles sur le plan politique, économique, social et autres. Donc, ça veut dire, si vous avez un problème avec l'islam politique, vous avez un problème avec l'islam que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné et que les sahaba ont mis en application après lui et qu'ils nous ont transmis jusqu'à aujourd'hui. Si ce que vous cherchez, ce que vous voulez, c'est l'islam, un islam falsifié ou déformé par les soufis ou par des chiites ou par d'autres sectes qui excluent la politique ou l'économie ou la vie sociale de la religion, alors dans ce cas-là, ça c'est pas le problème. Que ce que vous avez, c'est en réalité avec l'islam authentique et réel, hein, le vrai islam qui est dans le Coran et dans la Sunna, et non pas avec qu'est-ce que vous appelez l'islam politique, parce que il n'y a pas d'islam qui n'est pas politique. Ça n'existe pas un islam sans politique dedans, d'accord? Mais l'islam politique, si c'est comme qu'est-ce que les frères musulmans par exemple prétendent comme étant politique, ça n'a rien à voir avec l'islam. Dans le sens que eux, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent utiliser la politique des juifs et des chrétiens ou des athées ou des laïcs et la rendre islamique. Ça c'est totalement opposé à l'islam. Et si c'est d'utiliser ça et de dire que c'est ça l'islam politique, dans ce cas-là, nous on dit, si c'est ça pour vous l'islam politique, dans ce cas-là on est d'accord avec vous que ça n'a rien à voir avec l'islam, parce que la démocratie c'est opposé à l'islam, c'est contraire à l'islam, et c'est pas ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné, et c'est pas ça non plus que Moïse a enseigné, c'est pas ça que Jésus a enseigné non plus. Aucun prophète n'a enseigné la démocratie, aucun prophète n'a enseigné la laïcité non plus. Donc le message de l'islam, quand on dit l'islam politique, si c'est ça que vous voulez dire, dans ce cas-là, on dit oui, c'est vrai, l'islam de la démocratie ou des trucs comme ça, c'est contre qu'est-ce que l'islam enseigne. Si vous voulez dire par l'islam politique aussi l'islam des khawarij, c'est-à-dire ceux qui au nom de l'islam, appelle à se révolter contre les dirigeants et à combattre le pouvoir politique et à les déclarer mécréants parce qu'ils font des péchés ou parce qu'ils contredisent certaines règles islamiques, et de les déclarer koufars et de justifier par cela les attentats terroristes et les coups d'État et les manifestations et les renversements et les révolutions et tout ça, dans ce cas-là aussi, encore là, on dit on n'est pas d'accord avec ce genre d'islam politique-là, parce que c'est contraire à la charia. Hein? C'est contraire à la charia, c'est contraire au Coran, c'est contraire à la sunna. Mais si vous parlez d'un islam politique dans le sens que dans l'islam, il y a des règles qui sont politiques, des règles qui sont économiques, des règles sur le plan social, des règles qui gèrent les relations internationales, les règles qui gèrent les relations entre les hommes et les femmes, les règles qui gèrent les relations entre les croyants et les non-croyants, les règles qui gèrent les relations entre les hommes sur le plan social, comme le mariage, le divorce, sur les questions qui ont rapport avec les peines, sur les questions qui ont rapport avec l'économie, l'héritage. Tout ça, c'est des règles qui existent dans l'islam, qui sont mentionnées dans le Coran, qui sont mentionnées dans la Sunna, qui sont mentionnées dans les livres de hadith, qui sont mentionnées dans les livres de fiqh, et qui existent depuis des siècles. Et si c'est ça, donc, que vous êtes contre, vous dites que ceux qui sont d'accord avec ça, ou qui défendent ça, sont des extrémistes, ou des radicaux, ou des intégristes, ou peu importe le terme que vous voulez donner à ça, alors dans ce cas-là, on dit à ceux qui disent ça, vous êtes totalement dans l'erreur, et ça impliquerait de dire que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les sahaba étaient tous des musulmans soi-disant politiques, ou des radicaux, ou des intégristes, ou des je sais pas quoi encore. Et donc, tous ce genre d'amalgame que font les non-musulmans aujourd'hui, puis même certains musulmans, ça c'est totalement faux. Et il n'y a pas longtemps, depuis quelques temps, on entend encore Fatima Ouda Pépin qui continue à mentir sur l'islam, puis à déformer la réalité de la religion musulmane, et à dire que la charia, ça fait pas partie de l'islam, ou de nier la charia, ou bien de se moquer même de la charia, ou de rejeter la charia, puis de dire qu'on peut être musulman sans croire en la charia, ou sans accepter ce qui est dans la charia, c'est-à-dire dans le Coran et dans la sunna. Alors c'est cette personne qui dit ça, c'est sûr que elle oppose la religion, ça c'est clair. C'est de la mécréance, parce que on n'a pas le droit de renier. On n'a pas le droit de renier la charia d'Allah. Et qu'est-ce que Allah a révélé dans le Coran et dans la Sunna? Donc on doit lui demander, est-ce qu'elle croit que le Coran c'est la parole d'Allah? Est-ce qu'elle croit que le Coran c'est la parole d'Allah révélée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'elle croit que les paroles du prophète qui sont dans les hadiths authentiques, que ça c'est des paroles qui ont été révélées aussi de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala? Comme Allah dit dans le Coran, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَىٰ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Est-ce qu'elle croit que ce que Allah a révélé dans le Coran et ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé aux messagers dans la Sunna, est-ce qu'elle croit que ces choses-là, c'est des choses qui sont révélées par Allah pour être appliquées jusqu'à la fin des temps, et que c'est valable et applicable jusqu'à la fin des temps, ou bien que pour elle c'est quelque chose d'historique qui est limité à une époque et à un moment et à un espace, et que après cette époque ou après ce moment ça s'applique plus? Et si c'est ça son idée, dans ce cas-là elle n'a rien compris de la religion de l'islam. Elle doit retourner à l'école primaire pour commencer à réapprendre même au sous le salatha, juste les trois fondements, juste pour commencer à essayer de comprendre qu'est-ce que c'est la foi en Allah. Donc il ne faut pas mélanger les choses, malheureusement il y a beaucoup de confusion, beaucoup de mélange. Donc dans l'islam, comme je disais, il n'y a jamais eu besoin, on n'a jamais eu besoin d'avoir de la laïcité comme les Européens et les chrétiens et les juifs en ont eu besoin, parce que le problème qui a existé historiquement en Europe entre l'Église et les pouvoirs politiques, entre l'Église et la vie sociale et les hommes en général, ça n'a jamais existé en islam. Et donc, étant donné qu'on n'a jamais eu leur problème, on n'a pas besoin de leur solution, hein, ou de leur fausse solution. Si on n'a pas eu votre problème, vos faux problèmes, parce que c'est des problèmes faux, causés et dus, et qui ont été créés par, justement, le fait que c'était basé sur des religions qui étaient fausses et fabriquées par l'homme. Donc si la religion elle est fausse et qu'elle est fabriquée par l'homme, falsifiée, déformée, c'est normal qu'elle va créer des conséquences négatives dans la société. Et par la suite, pour essayer de réparer ces problèmes que ces fausses religions ont créés dans les sociétés européennes et autres, ils ont dû opposer leur religion par des règles et par des systèmes qu'ils ont inventés eux-mêmes, hein, pour essayer de répondre à ces problèmes. Et les réponses qu'ils ont ramenées sont en réalité des réactions à ces erreurs et à ces problèmes qu'ils avaient eus dans leurs révélations précédentes. Et ces réactions qu'ils ont eues et ces fausses réponses qu'ils ont ramenées n'ont pas réglé le problème, mais ajouté des problèmes aux problèmes qu'ils avaient déjà. Et c'est pour ça qu'on les voit aujourd'hui. Hein, ils tourneront seulement. Et ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et on voit que leur système, on dirait qu'il est en train d'éclater par lui-même. Il est en train d'exploser parce qu'ils ne savent plus comment gérer les situations qui se passent. Ils appellent à des principes et à des valeurs, puis après ils sont obligés d'eux-mêmes de les contredire parce qu'ils voient qu'ils ne sont pas capables de gérer. Et c'est tout à fait normal puisque ce sont des lois et des règles inventées par l'homme. Et par la nature même de ces lois-là, hein, du fait qu'elles sont créées par des êtres humains limités et finis, eh bien, ils doivent avoir des problèmes de ce genre. Et ça ne veut pas dire que si on applique l'islam, il n'y aura pas de problème, mais ça veut dire que s'il y a des problèmes, on saura comment essayer de trouver des solutions à ces problèmes-là qui sont tirés et basés et inspirés sur la législation divine. Et si on se base là-dessus, c'est certain que Allah subhanahu wa ta'ala va nous aider. Mais de toute façon, on revient donc au sujet. Tout ça, c'est pour expliquer que ces nouveaux systèmes qui existent là, à la base, ça vient de l'extrémisme du christianisme et du judaïsme, de ces religions-là. Et donc, ils ont inventé le monachisme, hein, et cette innovation-là qu'ils ont fait dans le but de se rapprocher d'Allah et de chercher l'agrément d'Allah, eh bien, ça les a ramenés à se détacher de la dunya et de la vie d'ici-bas et à rester dans les monastères. Et le but pour lequel ils ont fait ça à la base, c'était pas pour contredire la religion. Ils ont fait ça au contraire en pensant qu'ils étaient en train de faire quelque chose qui plaît à Allah. Mais comme on le sait dans l'islam, l'action, si elle est en contradiction avec les règles et les enseignements des messagers, l'enseignement du prophète, le Coran et la Sunna, alors l'action ne sera pas acceptée même si on le fait avec une bonne intention. Et donc c'est pour ça le cheikh il dit, regardez le terme ibtada'uha. Juste ce terme là à lui seul il suffit pour blâmer l'action, parce que ça veut dire que c'est une bid'a. Et quand tu dis que quelque chose est une bid'a, ça veut dire que c'est haram et que c'est contraire à la révélation. Donc le cheikh il dit, même si leur intention, l'intention de la personne qui fait une innovation, même si elle est bonne, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque fait une œuvre ou une action qui n'est pas de notre religion, eh bien, cette action-là sera rejetée. Même si la personne qui l'a faite avait la bonne intention en le faisant et pensait faire du bien et chercher l'agrément d'Allah. Le cheikh, il dit, « ثُمَّ إِنَّهُمْ مَا أَنَّهُمْ هُمْ إِبْتَدَعُوهَا لِهَذَا الْقَصْدِ مَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَيَتِهَا » Donc, il dit, malgré qu'eux, ils l'ont fait cette action avec l'intention, hein, de chercher à plaire à Allah, qu'ils l'ont innové cette innovation-là pour plaire à Allah, ils n'ont pas été capables de le faire comme il se doit. Pourquoi? Le cheikh il dit parce que c'est de l'extrémisme. Hein? Regardez par exemple, juste pour donner un exemple, et cet exemple-là suffit comme exemple pour faire comprendre la réalité du désordre et de la corruption. L'Europe, pourquoi il a été noyé maintenant dans la perversité et dans comme si l'obscénité, hein, la nudité, la révolution sexuelle, toutes ces choses-là. Pourquoi ça a explosé en Europe, toutes ces choses-là? Parce que déjà l'Église a interdit, par exemple, même dans les relations hommes-femmes, même entre un homme et sa femme, hein, des choses de base élémentaire, ils ont interdit certaines choses de base élémentaire, même des relations intimes entre un homme et sa femme. Et même malgré tout, bon, ils ont interdit par la suite la polygamie aussi, alors qu'on sait toujours qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Donc ils ont interdit la polygamie, ils ont ordonné et rendu obligatoire uniquement la monogamie. Ça, c'est une des causes de l'explosion de toute cette perversité. Et non seulement ça aussi, ils ont interdit le divorce. Ça veut dire qu'un homme ne peut pas divorcer. Il est obligé de rester avec sa femme toute sa vie, même s'il n'est pas bien avec elle, ou même si elle n'est pas correcte avec lui. Et vice-versa, c'est-à-dire si une femme est avec un homme et qu'elle n'est pas bien avec lui ou que la relation n'est pas bonne, il leur permet pas de se divorcer. Hein? On a vu qu'est-ce que ça a eu comme conséquence. Juste l'exemple du roi, je pense que c'était Henri IV en Angleterre. Hein? Il a voulu épouser une autre femme et le pape il a refusé parce qu'il a dit non, tu l'as mariée, tu es marié avec elle, tu peux pas divorcer. Qu'est-ce qu'il a fait? Pour pouvoir se divorcer, il a dû même quitter l'Église catholique. Et il a fondé sa propre Église. C'est devenu une autre religion après. L'Église anglicane. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la reine d'Angleterre, Elisabeth II, est la tête de l'Église anglicane. La chef de l'Église anglicane. Donc c'est pour dire qu'une simple question de divorce a créé, hein, tous ces problèmes politiques par la suite, des guerres et tout ça pour une question très simple, hein, et que aucun prophète n'avait interdit la répudiation et le divorce. Hein, c'est basé sur des interprétations qui ont, il n'y a aucune preuve, il y en a ces choses-là. En tout cas, ça c'est un point, un autre exemple qui a ramené à beaucoup de problèmes. Et également par la suite le fait que les prêtres n'ont pas le droit de se marier et les religieuses n'avaient pas le droit de se marier aussi, et ça on voit les conséquences aujourd'hui, hein? Les prêtres qui violent ou qui abusent sexuellement des petits enfants, hein? Et qui les violent et qui les agressent sexuellement, pourquoi ils vont pas avec des femmes ou des adultes? Pourquoi ils vont avec des enfants? Parce qu'ils savent que les enfants sont innocents, puis qu'ils ne vont pas penser du mal d'eux ou les juger ou des choses de ce genre. Ils ne vont pas aller voir des adultes parce que les adultes vont les juger, hein, des choses comme ça. Donc c'est des gens, vraiment, on voit jusqu'où leur perversité les ont amenés. Et il y a plein de preuves de ça, et même les prêtres, ils le savent. Hein. Le pape actuel, il a même été parmi ceux qui ont fait qui ont été parmi ceux qui ont jugé justement certains des évêques, hein, qui ont fait ces actes-là, et aussi le pape précédent qui avait démissionné justement, hein, quand il a vu toute la perversité et les problèmes qui existaient dans l'Église, c'est probablement peut-être pour ça qu'il a voulu démissionner. Et puis ça, c'est rien, parce que si tu regardes dans l'histoire, dans le passé même de l'Église catholique à l'époque, comment les papes eux-mêmes avaient des maîtresses, comment ils avaient des enfants illégitimes, et comment, hein, tout ça, c'est des choses connues. Donc Tout ça pourquoi? Parce qu'ils ont une religion qui vient en opposition avec la nature humaine que Allah a créée et qui va en opposition avec les besoins les plus essentiels que les hommes ont dans leur vie. D'avoir une femme, d'avoir des enfants, d'avoir une famille. Donc, c'est pour montrer comment cet extrémisme-là les a poussés à dévier et à ne pas être capables de mettre en application ce qu'ils prétendaient vouloir même appliquer. Ils ont, je pense, trouvé à côté d'un monastère, un ancien monastère, ils ont trouvé une fosse avec plein de... ou un puits, en tout cas plein de fœtus, de... comment on appelle, les squelettes ou des corps, en tout cas des ossements de bébés. Ouais, parce que chaque fois que les religieuses tombaient enceintes, elles allaient se faire avorter ou bien elles accouchaient puis elles jetaient le bébé. Ils ont trouvé ça, des choses comme ça, plein de fœtus morts et des choses de ce genre. Tout ça pourquoi? Parce que ils suivent une religion qui est en opposition avec la religion d'Allah et les enseignements des prophètes et la nature qu'Allah a créée en l'homme. Et c'est pas surprenant qu'on trouve, par exemple, ici au Québec ou en France, qui étaient des pays où c'était très catholique et la religion catholique avait une emprise très forte dans ces sociétés-là, c'est devenu aujourd'hui parmi les sociétés les plus athées et les plus dégoûtées de la religion que tu trouves au monde. Pourquoi? Parce que c'est la réaction et l'autre extrême de qu'est-ce qui a été la cause de par rapport à qu'est-ce que l'Église a fait. Donc tout ça c'est le résultat de l'Église, le résultat de l'enseignement des fausses religions. Et aujourd'hui, ils essaient de montrer l'islam comme si c'est l'islam, l'extrémisme. L'islam n'a jamais été la cause de ces choses-là. Et aujourd'hui, les Québécois ou bien les Français ou les autres catholiques, les autres chrétiens, les autres juifs dans le monde, ils se disent « Mais comment ça se fait que les peuples musulmans, malgré tout ce qui se passe dans les pays musulmans, ils restent accrochés à leur religion et ils continuent à vouloir pratiquer leur islam ?» Parce que notre religion, elle n'est pas une religion fabriquée par l'homme, qui a été poussée l'homme à contredire sa nature, mais au contraire, c'est une religion qui est révélée par Allah et qui n'a pas été falsifiée, et donc qui est en harmonie avec la nature humaine, et donc qui fait que l'être humain, il n'est pas en conflit avec sa personne, avec son être, avec la façon de vivre, qu'il suit, il est modéré et il a une croyance qui est modérée et à cause de ça, il ne tombe pas dans les extrêmes. À part si il est tombé dans une innovation et à part s'il a imité les juifs et les chrétiens dans quelque chose de sa croyance ou de sa pratique, alors il tombe dans l'extrémisme et là il devient comme, qu'est-ce qu'on voit maintenant chez les chiites ou chez les soufis ou bien chez les khawarij ou autres. C'est ça le résultat. Allah al-Musta'an. Mais le cheikh il dit ensuite, il dit, mais tandis que celui qui est modéré, mu'tadil, eh bien lui, il reste et il est constant. Il ne va pas lâcher. Mais si tu es extrémiste, tu veux pratiquer ta religion trop dure, il y en a beaucoup comme ça des fois, surtout par exemple des nouveaux. Quand on dit des nouveaux, ça veut dire soit qu'ils sont nouveaux musulmans, c'est-à-dire ils étaient athées ou chrétiens ou juifs, ou une autre religion, puis ils rentrent dans l'islam, ou bien ils étaient des musulmans insouciants qui faisaient des péchés, qui vivaient dans l'insouciance, qui négligeaient les obligations, qui faisaient des péchés, puis qui sont revenus à la pratique de la religion nouvellement, et ils rentrent dans la religion sans faire d'efforts pour l'étudier comme il faut, et ils deviennent extrémistes aussi. Ça, on retrouve des gens comme ça. Donc, ils commencent avec une verve, avec une ferveur religieuse très, très, très forte, mais sans compréhension et sans avoir étudié la religion avec les savants. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent comme des flèches hein? Et puis ils peuvent pas rester constants, alors ils tombent. Et c'est ça qui arrive, et c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit justement les khawarij, qu'ils quittent l'islam comme la flèche. Eh bien, ces gens-là aussi, ils quittent l'islam comme la flèche. Tu les vois, ils sont trop durs avec les gens. Et quand tu vois quelqu'un qui est plus dur avec les gens qu'avec lui-même, c'est un signe déjà qu'il y a un problème. Il y a des gens qui sont très durs à juger les autres, mais avec eux-mêmes, ils sont très doux. ils se critiquent pas beaucoup. Mais il y a un problème là-dedans aussi. Parce que tu devrais commencer par toi-même en premier, voir tes fautes et tes défauts à toi, et être plus sévère avec toi-même que tu l'es avec les autres. Mais il y en a des gens, c'est le contraire. Avec eux-mêmes, ils sont très patients et doux, et ils acceptent leurs erreurs et leurs propres péchés avec beaucoup de permissivité. Et avec les autres, ils sont intransigeants et sévères et stricts. Ils veulent que tout le monde obéisse à Allah au doigt et à l'œil, alors qu'eux-mêmes, ils n'obéissent pas à Allah au doigt et à l'œil. Il y a un problème. Naam. Donc, il faut être constant, hein? Il faut être modéré, il faut être constant, et il faut être cohérent, hein? Cohérent. Et il faut pas faire beaucoup puis après tu laisses. C'est mieux de faire peu sur la sunna que de faire beaucoup dans la bid'ah. C'est les salafis disaient ça. Al-iqtisad fi sunna khayrun min al-ijtihad fi bid'ah. De faire peu, hein, d'être modéré sur la sunna, c'est mieux que de faire beaucoup d'efforts dans l'adoration sur la bid'ah. Tu te fatigues pour rien. Après, le cheikh, il dit, parce que la personne qui est modérée, elle persiste, elle est constante et elle continue. Hein? Comme c'est mentionné dans le hadith. Al-mumbatta, inna al-mumbatta, la ardan qata' wa la zahran abqa. Celui qui part avec un cheval ou avec un animal, à toute vitesse, ok, il veut faire un voyage, un long voyage, mais au lieu d'aller à un rythme normal pour aller faire son voyage, il part avec son cheval au galop à toute vitesse, hein, et il prend pas de repos, il prend pas de pause. Il dit, il n'a pas réussi à faire une longue distance et il n'a pas non plus réussi à garder sa monture. Il va faire une courte distance très rapidement, puis après sa monture est tellement fatiguée, elle meurt d'épuisement en chemin. Donc il n'a pas fait de trajet et il n'a pas été capable de préserver sa monture. Donc il n'a rien gagné à la fin. Et c'est ça la personne qui est extrémiste. Elle veut aller trop vite, elle fait trop d'efforts trop rapidement, puis elle s'épuise, hein, elle se fatigue. Mais la personne qui est modérée, eh bien, elle est ferme et elle avance avec repos et avec tranquillité et de façon paisible et reposée. Hein? Elle peut aller lentement, mais sûrement et sur le droit chemin, sur la sunna. Hein? C'est ça l'important. Après, le cheikh, il dit « Amma qawluhu ta'ala » Ah, il reste 5 minutes. الشيخ يقول أما قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته فهذا خطاب لأهل الكتاب بأن يؤمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم لأنه لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وجب على جميع العالمين من أهل الكتاب وغيرهم ومن جن وإنس أن يؤمنوا برسالته قال الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون فأمرهم الله أن يبقوا على إيمانهم بالرسل وَيُضِيفُ لِذَلِكَ إِيمَانَهُمْ بِمُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ حَتَّى يَصِحَّ إِيمَانُهُمْ وَيَسْتَمِرْ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مُؤْمِنًا بِالْأَنْبِيَاءِ وَأَدْرَكَ مُحَمَّدًا صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِهِ فَإِنَّهُ يَكُونُ كَافِرًا ويبطل إيمانه وقوله يؤتكم كفلين أي أجرين يعني أجر على الإيمان الإيمان السابق بالرسل وأجر عن الإيمان اللاحق بمحمد صلى الله عليه وسلم ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم هذه مزايا عظيمة لمن اتبع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل الكتابين اليهود والنصارى ثم قال لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله أي فعلنا هذا ليتحققوا أنهم لا يقدرون على رد ما أعطاه الله هذه الأمة من الفضل باتباعها لنبيها محمد صلى الله عليه وسلم فإن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ومعلوم أن اليهود قد حسدوا هذه الأمة على ما آتاها الله عز وجل من فضل donc le cheikh il termine l'explication du verset en disant que Allah subhanahu wa ta'ala quand il dit ô vous qui avez cru craignez Allah et croyez en son messager il vous donnera deux parts de sa miséricorde. Il dit ça c'est un discours qui s'adresse aux gens du livre pour qu'ils croient en son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il a été envoyé à tous les hommes, à toute l'humanité au complet, hein? Les gens du livre et autres, et aux djinns et aux hommes. Tous ont l'obligation de croire en son messager et en son message. Allah subhanahu wa ta'ala justement il mentionne dans le verset 158 dans sourate Al-A'raf dans le verset 158 dans sourate Al-A'raf il mentionne que le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il a été envoyé pour toute l'humanité dit Allah subhanahu wa ta'ala il dit ce qui signifie dit ô Mohammed ô vous les hommes je suis pour vous tous le messager d'Allah à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Pas de divinité à part lui. C'est-à-dire, rien ne doit être adoré excepté lui. Il donne la vie et il donne la mort. Croyez donc en Allah et en son messager, le prophète illettré qui croit en Allah et en ses paroles, et suivez-le afin que vous soyez bien guidés. Naam. Après, il dit donc, Allah leur a ordonné de rester sur leur foi en les autres messagers et d'y ajouter la foi en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala ne dit pas aux gens du livre cessez de croire aux prophètes et aux messagers et aux livres. Non, continuez à croire aux prophètes et aux messagers et aux livres, mais rajoutez-y la foi en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la foi en le Coran. Et en faisant ça, donc, ça prouve que votre foi, elle va être valable et elle va être permanente, elle va continuer. Mais celui qui croit en les autres prophètes, puis que on lui apprend l'existence du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il n'y croit pas, il refuse de croire en lui, alors dans ce cas-là, il est non croyant. Ça détruit sa foi. Si il était juif ou chrétien, puis qu'on lui dit tu dois croire en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puis qu'il refuse, dans ce cas-là, il n'a pas de foi. Et il dit, يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ c'est-à-dire, il va vous donner deux récompenses. La récompense d'avoir cru au messager précédent et la récompense d'avoir cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, celui qui était juif ou qui était chrétien, puis qui se convertit à l'islam, il a le double de la récompense par rapport à celui qui était né dans l'islam, qui a cru seulement au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui auparavant n'avait n'était pas sur une religion autre. Hein? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit yu'tikum kiflayni min rahmatihi. Après, il dit wa yaj'al lakum nuran, et il vous donnera une lumière dans laquelle vous marcherez, et il va vous pardonner, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Et donc, ça, c'est parmi les grandes. Les grands privilèges et particularités que Allah va donner à celui qui a suivi le messager sallallahu alayhi wa sallam, le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parmi les gens du livre, soit les juifs ou les chrétiens. Hein, ça c'est une particularité que Allah va leur donner. Et il dit, puis ensuite il dit, pour pas que les gens du livre croient qu'ils ont une décision par rapport à la grâce d'Allah. Hein? Et en voulant dire que Allah subhanahu wa ta'ala, le Cheikh, il dit pour qu'ils réalisent que c'est pas eux qui ont le pouvoir sur le fait de donner ou de rejeter la grâce d'Allah. Allah, il a voulu donner sa grâce à la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et cette grâce, on l'a obtenue en suivant l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et la grâce tout entière est entre la main d'Allah, il la donne à qui il veut. Et on sait très bien que les juifs ont été jaloux de cette Ummah pour ce que Allah a donné, hein, à cette Ummah de grâce, comme grâce. Donc les juifs sont jaloux de la Ummah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que Allah a donné une grande grâce à la Ummah de Muhammad. Et les juifs n'aiment pas partager, hein, ou bien recevoir, savoir que d'autres ont reçu une grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala à part eux-mêmes. Donc, ils veulent tout faire pour éloigner les musulmans de cette grâce et de les faire dévier du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour que justement on soit éloigné de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a un verset même dans le Coran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit wadda kathirun min ahli al-kitabi law yardunakum law yardunakum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum al-haq. Donc il y a beaucoup des gens du livre qui aimeraient vous faire retourner à la mécréance, après avoir eu la foi, par jalousie de leur part, hein, après que la vérité leur a été clarifiée. Subhanallah. Donc, en réalité, le croyant, il ne doit pas être jaloux de la foi de quelqu'un, mais il devrait être heureux de la foi de quelqu'un et vouloir l'encourager et l'aider. Hein? C'est comme par exemple. Ça me fait rire parce que des fois il y a des compétitions, des fois entre des frères et des sœurs et des gens d'une même famille. Et chaque fois qu'un fait quelque chose, l'autre veut le suivre. Si c'est dans le mal, c'est sûr que c'est négatif. Mais si c'est dans le bien, par exemple, un frère qui dit à son frère, mais comment ça, maintenant je suis devenu musulman, toi tu deviens musulman toi aussi, pourquoi tu me suis, hein, pourquoi tu fais comme moi? Non, tu ne dois pas dire ça, parce que au contraire tu dois être content que ton frère t'a suivi dans la vérité. Mais celui qui est jaloux, il veut pas que l'autre soit dans le bien, il veut que ce soit juste pour lui. Ça c'est pas l'attitude du mu'min. Hein? Tayyib, inshallah, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on continuera le prochain cours, inshallah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.